Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs dans divers domaines de la vie. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. J'ai rencontré Robin Môme, enseignant en activité physique adaptée, qui est l'équivalent entre autres du kinésiologue au Québec, ainsi que Daniel Mercier, qui est préparateur physique, conférencier et cofondateur avec Robin de CardioTest, la prochaine plateforme numérique d'évaluation de la capacité cardiovasculaire à l'effort. Ensemble, ils ont expliqué la raison de la création du projet et l'objectif qu'ils se sont fixés en l'implantant. Merci à eux de leur temps et à vous d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Bon podcast! Donc, merci Robin et Daniel de vous être présentés au jeu, à l'épisode. Je voulais savoir comment ça va de votre côté. On a parlé un petit peu à voix off, mais je veux savoir comment ça va de votre côté. Je sais qu'il est 18h présentement, 18h08 en fait, en France.
C'est ça. C'est Daniel, tu peux peut-être commencer. Moi, ça va bien. Bientôt le week-end, 18h en France, donc c'est très bien. Tout va bien.
Donc, la première question que je vais vous poser par rapport à votre projet qui est CardioTest, c'est surtout qu'est-ce que c'est puis d'où ça vient en fait l'idée du CardioTest?
Je vais peut-être commencer. Donc, l'idée du CardioTest, c'est d'arriver à faire un test d'évaluation de la capacité cardio-respiratoire qui peut remplacer ce qu'on appelle souvent les tests à l'effort en France et qu'on appelle souvent des... Parce que je sais, parce que je connais beaucoup de personnes qui le font, on appelle ça un tapis, mais c'est un test à l'effort... Parce qu'on fait beaucoup sur tapis roulant au Québec et on le fait beaucoup sur vélo en France et sur vélo stationnaire. Et les tests à l'effort, ça prend souvent beaucoup de temps. C'est souvent un effort maximal. Ça demande beaucoup d'équipement, etc. Et ça se fait souvent dans un environnement médical. L'objectif, c'était d'arriver à faire un test sous maximal sur un appareil qui coûte pas très cher, c'est-à-dire un step, et qui dure moins de 5 minutes. C'était les objectifs principaux pour pouvoir évaluer finalement le capital santé des personnes, que ce soit des patients ou pas des patients.
OK. Parfait. Puis qu'est-ce que ça consiste en tant que tel? Parce que tu sais, si on réfère un peu au Canada, on a le physitest canadien aussi, qui n'est pas exactement sur step, mais qui est plutôt avec des marches. Je pense qu'il y avait avec deux hauteurs différentes.
Si je fais la différence avec le physitest canadien, que sans doute Robin connaît un peu moins, mais moi que je connais beaucoup, le physitest canadien, ça se fait sur une marche de 8 pouces, deux marches de 8 pouces, où est-ce que tu montes un rythme donné pendant 3 minutes. Après ça, tu prends ta fréquence cardiaque et dépendant de ton âge, on te dit s'il doit faire un autre palier ou puis un autre palier, etc. La problématique de ça, il y en a plusieurs problématiques avec ce test-là. La première problématique, c'est que c'est basé uniquement sur la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque est en fonction de l'âge et du sexe, surtout en fonction de l'âge. Le problème du physitest canadien, c'est que ça fait des erreurs énormes sur l'évaluation réelle. D'ailleurs, le coefficient de corrélation du physitest canadien par rapport à des mesures réelles est très faible et pas mieux qu'un questionnaire d'estimation comme le questionnaire de UE qui fait à peu près le même résultat. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que il y a des variations énormes de fréquence cardiaque pour le même âge. Pour moi, et c'est un test sous-maximal qui, à mon avis, a peu d'intérêt, mais qui est utilisé en grande proportion au Canada. Mais pour moi et pour Luc Léger, c'est un test peu valide.
OK, puis quand on parle de... Oui.
Oui, si on parle de cardio-test, j'imagine. Il y a le cardio-test...
Non, ça va, allez-y.
Donc, en ce qui concerne le cardio-test, ce n'est pas basé sur la fréquence cardiaque, c'est basé sur le ressenti d'effort. Et est-ce qu'il a été déjà validé? Non. Mais il est en cours de validation en collaboration avec l'Université d'Orléans.
OK.
Mais un test préalable nous a donné des coefficients de corrélation de l'ordre de... Un test préalable en collaboration avec l'Université de Strasbourg nous a donné des coefficients de corrélation dépendant des hauteurs du step. Plus le step était élevé, plus la corrélation était bonne. Une variation de 0,84 de corrélation jusqu'à 0,93. Donc, aussi bien qu'en course à pied.
OK. Puis est-ce que, parlant de la grosseur, du, pas la grosseur, mais plutôt on peut dire la hauteur du step, comme là présentement ici, je crois que c'était des hauteurs entre 10, 20 ou 30 cm. Est-ce qu'il y a une différence flagrante par rapport à la hauteur pour différentes populations?
Oui, c'est ce qui arrive, c'est qu'avec un questionnaire d'estimation préalable, on estime la capacité aérobie, la capacité cardio-respiratoire, et en fonction de cette estimation-là, qu'on donne en mètres, mais qu'on peut donner aussi en millilitres d'oxygène par minute, par kilo, on suggère une hauteur différente. Évidemment, les personnes les moins en forme et les personnes qui ont une petite capacité aérobie estimée par le questionnaire, qui n'est pas parfait, mais qui nous donne une bonne idée, ben, on va choisir plutôt 10 cm. Pour les personnes qui sont plutôt actives, sédentaires plus, actives moins, ben, ça, on va suggérer plutôt un step à 20 cm. Et pour les personnes qui sont plus en forme, qui ont des estimations de l'ordre, pour ceux qui connaissent bien l'estimation des mètres, 12 mètres ou environ 45 millilitres d'oxygène par minute par kilo, ben, on va suggérer plutôt un step à 30 cm.
OK. Puis je crois qu'aussi, votre comparativement au FISTES canadien, vous utilisez davantage les METS comparativement à, exemple, à la fréquence cardiaque, comme vous dites. Est-ce que vous serez capable, peut-être Robin ou Daniel, de peut-être expliquer pour la population à peu près c'est quoi les METS, c'est quoi son intérêt aussi au niveau de la santé puis au niveau de l'effort physique?
Je vais faire la différence, puis je vais laisser compléter Robin après parce qu'il est... Comme c'est un homme de... Moi, je suis l'homme scientifique, mais lui, c'est un homme de terrain. C'est un kinésiologue français qu'on appelle enseignant en activité physique adaptée. Premièrement, si on veut estimer la capacité cardio-respiratoire ou VO2 max, ce qui revient au même, fréquence cardiaque n'est pas une mesure de la capacité cardio-respiratoire. On peut l'évaluer en millilitres d'oxygène par minute par kilo ou on peut l'évaluer en mètres, juste pour faire la distinction des deux. Et pourquoi nous pensons, à tort ou à raison, hein, que c'est mieux d'utiliser l'unité METS. Un mètre, c'est la consommation d'oxygène d'un être humain au repos. Et ça correspond à 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Mm-hmm. Et donc, il y a un équivalent entre les deux. C'est tout simplement, une fois qu'on l'a utilisé et qu'on l'explique à un patient, à une personne qui n'est pas un professionnel, c'est peut-être plus facile de l'expliquer parce que tu dis, ah, mais au repos, vous êtes à 1. Si vous marchez vers, c'est relativement facile parce que j'avais écrit un article en collaboration avec Luc Léger dans les années 80, où est-ce qu'on s'est aperçu que 1 km/h égale à peu près 1 mètre. À partir de 4 km/h, lorsqu'on marche à 4 km/h, on est à peu près à 4 fois le métabolisme de base, donc 4 mètres. Lorsqu'on court à 10 km/h, on est environ à 10 fois le métabolisme de base, donc à peu près 10 mètres. Okay. Donc, c'est pas vrai pour le vélo, hein. C'est pas vrai lorsqu'on monte une pente, mais c'est vrai sur le plat. Et donc, c'est relativement facile à expliquer. Si on dit à quelqu'un qu'il a 38 millilitres d'oxygène par minute par kilo, pour les experts, évidemment, ça se comprend. Pour monsieur, madame, tout le monde, s'il connaît pas la notion dès le départ, on trouve que c'est plus facile de l'expliquer en mètres, tout simplement. Okay. Mais dans notre application, ce sera possible d'avoir les deux unités de toute façon. Je vais commencer, puis je vais laisser finir, parce qu'il y a un deuxième volet à ta question. Quelle est la relation entre METS et santé? S'il y en a qui s'inscrivent, puis là, Robin va compléter, ceux qui se sont inscrits à notre essai, puis peut-être que ça pourrait être partagé dans un chat ou à côté, ceux qui s'inscrivent pour des professionnels ou d'autres personnes qui veulent s'inscrire, puis voir à quoi ça ressemble le cardiotest, ils vont pouvoir recevoir effectivement par la suite 8 articles concernant cet aspect-là, et je laisse compléter Robin.
Mais avant qu'il continue, juste être certain aussi, le cardio-test présentement, je sais qu'il est disponible en essai, mais est-ce qu'au Canada, Québec, est-ce que c'est de quoi qui est envisageable? Est-ce que c'est aussi accessible?
Je vais noter également Robin.
Aujourd'hui, du coup, cardio-test, c'est une application qu'on a de notre côté pour faire les tests, mais l'application en tant que telle cardio-test, elle n'existe pas encore, elle n'est pas sortie, elle est en cours de développement. Moi, j'ai annoncé effectivement qu'elle serait bientôt sortie. Donc, on a laissé la possibilité via notre site internet de s'inscrire, de se préinscrire pour la phase de lancement, pour pouvoir le découvrir en avant-première et pour pouvoir faire partie de cette phase de test. Ça veut dire qu'on sait très bien que dans un premier temps, une application, elle correspondra peut-être pas à tous les usages possibles. Et donc, ce qu'on veut, c'est le faire tester à un certain nombre de kinésiologues, d'enseignants à pas, de cardiologues, de médecins, pour qu'ils nous fassent leur retour, savoir les problématiques qu'ils rencontrent. Et sans, s'en suivra sans doute des rectifications. Et après ça, seulement, on pourra les mettre à disposition auprès de tous les professionnels, que ce soit en France, mais aussi ailleurs, comme le Québec. Donc, d'accord. Pour l'instant, c'est pas encore disponible pour te répondre plus précisément, mais ça le sera et il y aura pas de problème que ce soit la France ou de votre côté, quoi.
OK. Puis juste pour revenir à la question justement que j'avais lancée un peu avant aussi, le rapport entre les Mets puis la santé peut-être pour la population. Moi, ce que je comprends, c'est que déjà en partant, c'est que si tu utilises l'avantage des Mets pour expliquer un petit peu l'effort d'une personne, bien, c'est plus facile pour dire à la personne, bien, présentement, comme on est en ce moment en train de discuter, on serait à 1 mètre, mais si tu commences à marcher à 4 km/h, là, tu te rendrais à 4 mètres. Fait que déjà, tu vois, ton effort est rendu à 4 mètres. Donc ça, c'est quand même intéressant, plutôt que de dire, bien, là, tu fais 38 millilitres de kilogrammes par minute, comme Daniel le dit, c'est plus complexe. Nous, on comprend, puis c'est super, mais tu sais, c'est le moment de l'expliquer. Donc, au niveau de la santé, exemple, il y a sûrement une valeur maximale aussi pour ce qui est de ton niveau d'effort, pas d'effort, mais plutôt d'activité maximale, mais je vais te laisser peut-être continuer avec la deuxième partie de la question, Robin.
Je vais peut-être commencer sur les écarts, puis après ça, je vais laisser Robin parler des 8 articles qu'on a mis en ligne. Et oui. Bon, juste pour savoir, les Mets peuvent être utilisés à 3 niveaux. 1, au repos, on est tous à 1, ou à peu près à 1. 2, lorsqu'on fait un effort qui se mesure bien, comme par exemple la marche sur le plat, il y a des équivalents. Okay? Lorsqu'on est à 4 km/h, on est à peu près à 4 mètres. Lorsqu'on court à 10 km/h, on est à peu près à 10 mètres. Et on a tous un maximum qui n'a pas rapport avec ce que je viens d'expliquer. Et le maximum varie de 2 à 3 pour les personnes qui sont vraiment pas en forme, comme les insuffisants rénaux dialysés, jusqu'à 4 ou 5 pour des malades cardiaques, 4 à 7 pour des diabétiques de type 2 en général, même s'il y a des variations, 6, 7, 8 pour des sédentaires, et 9, 10, 11, 12 pour des personnes actives, 13, 14, 15, 16, 17 pour des personnes sportives, et les meilleurs du monde chez les hommes, c'est des skieurs de fond, des coureurs demi-fond et fond, ils ont jusqu'à 25 à 27 mètres, c'est chez les femmes de 22 à 24 mètres. Ça donne une idée du range qu'il y a.
OK, donc c'est presque... Oui.
Oui. Je vais laisser Robin répondre. Ah, vas-y, si tu avais quelque chose à compléter.
Non, je posais juste la question. Donc, si je comprends, c'est surtout des exercices qui sont à caractère cardiovasculaire davantage que musculaire.
Ah, de toute façon, le cardiotest évalue la capacité cardio-respiratoire. Il n'évalue pas la force maximale ou des choses comme ça. L'objectif, c'était du cardiotest, c'est d'évaluer la capacité cardio-respiratoire.
Parfait.
Ça, pour compléter plus sur le terrain, moi, ce que je trouve qui est pratique avec ça, et c'est pour ça que je travaille avec Daniel là-dessus, c'est que on a vraiment une possibilité avec les Mets d'expliquer facilement. On l'a dit avec une possibilité, comme on l'a dit, de savoir combien on a de Mets au repos. Donc, un, combien de Mets on a à l'exercice. Par exemple, 4 Mets, c'est quand on marche à 4 km/h. Et ce qui est intéressant de dire, on parlait de relation à la santé, à la qualité de vie, c'est que plus je vais avoir un maximal qui est élevé, plus je vais avoir la capacité de faire des efforts qui vont être élevés pour les soutenir longtemps. Et je pense que c'est vraiment le but qu'on a en activité physique adaptée et pour les kinésiologues aussi. C'est pas forcément la performance pour une activité sportive, mais c'est aussi de pouvoir améliorer sa santé. Et pour nous, la santé, ça passe par la possibilité de faire des activités qui nous plaisent, quotidiennes, etc., de manière plus intense, plus longtemps. Donc si je sais que pour monter en haut d'une montagne qui me plaît, il me faut 8, 9, 10, 11, 12 mètres, et que j'en ai que 8 pour l'instant, bah, je ne vais pas pouvoir monter, alors que si j'augmente ma capacité maximale, et bah, dans quelques temps, je pourrais la monter.
Okay.
Je pense que pour ça, les mètres, c'est vraiment largement au-dessus, et je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques avec qui on échange qui ne comprennent pas trop parce qu'ils aiment les millilitres d'oxygène par minute par kilo. Nous aussi, on les aime, et on vient tous les deux de l'athlétisme avec Daniel, et on les aime. Mais les mètres, clairement, pour notre mission de rendre l'activité physique compréhensible et claire, clairement, les mètres, il y a pour moi rien de mieux pour expliquer, en tout cas, la partie cardio-respiratoire.
OK. Donc,
peut-être c'est pour compléter. Ouais.
Non, allez-y, excusez. Le décalage, hein, des fois, ça.
Je pense qu'il y a un petit décalage, c'est pour ça. C'est pas grave.
Oui.
Donc, pour compléter sur la santé, parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites entre la capacité aérobie. Parfois qui est exprimé en mètres, parfois qui est exprimé en millilitres d'oxygène par kilo. C'est dans les articles, on utilise les deux. Chez les cardiologues, par exemple, ils utilisent plutôt les mets. Bon, par exemple, puis après ça, j'aimerais que Robin complète aussi avec les 8 articles résumés que nous avons faits et que nous avons mis en ligne. Par exemple, il y a eu une étude qui est sortie début 2021 qui a demandé, ça se faisait à la clinique Mayo aux États-Unis, qui est très connue. Ils avaient déjà des patients qui avaient déjà fait l'évaluation de leur capacité cardio-respiratoire. Eux, ils l'expriment en mètres. Donc, nous, on n'invente rien. Hein. Et ils avaient 1200 patients qui ont accepté de participer à l'étude. Ils leur ont demandé, est-ce que vous avez attrapé la COVID? À ce moment-là, parce que c'était au début de la COVID, il y en avait 250, 260 à peu près. Puis ils ont demandé, puis est-ce que vous avez été hospitalisé? Ils considéraient, je pense à raison, que ceux qui étaient hospitalisés suite au fait qu'ils ont attrapé la COVID faisaient une forme grave. Okay? Tandis que ceux qui n'étaient pas hospitalisés faisaient peut-être une forme asymptomatique ou symptomatique peu grave. Okay. Donc, ils se sont aperçus et que la moyenne de ceux qui étaient hospitalisés était à 6,7 mètres, c'est-à-dire une population plutôt sédentaire moins. Et ceux qui étaient en moyenne non hospitalisés avaient 8,0 mètres, ce qui semble être le minimum pour ne pas avoir trop de problèmes. Attention, okay. Il y avait des gens à 8 mètres qui étaient hospitalisés. Il y avait des gens à 8 mètres qui étaient hospitalisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait très bien que ceux qui avaient 2 à 3 mètres, c'est-à-dire par exemple les insuffisants rénaux dialysés, avaient 95% de risque d'être hospitalisés. Puis par exemple, ceux qui avaient 12, 13, 14 mètres, les gens plutôt sportifs, le risque d'hospitalisation était pour ainsi dire nul. Parce que dans les faits, il y a des études qui démontrent que lorsqu'on a une bonne capacité cardio-respiratoire, c'est notre ensemble du système, c'est pas seulement notre cœur qui fonctionne bien, c'est notre système respiratoire, pulmonaire, cardiaque, vasculaire et musculaire qui fonctionne bien. Et lorsque tout l'ensemble du système fonctionne bien, puis ma maman a dit aussi, ça veut dire aussi que c'est ce que ma mère dit. Elle dit que c'est bon parce que grouille, sinon tu rouilles. Mais dans les faits, d'un point de vue physiologique, c'est un petit peu vrai. Si tu ne grouilles pas beaucoup, si tu ne bouges pas beaucoup, souvent, tu ressembles plus à un étang qu'à une rivière et il y a beaucoup plus d'accumulation de déchets qui se font et il y a beaucoup plus de problèmes de santé qui arrivent.
Ah, j'adore. Donc, j'adore.
Moi aussi, j'adore ma maman. Donc, avoir une bonne capacité cardio-respiratoire, avoir des mets plus élevés, c'est un bon système immunitaire. Et je pourrais donner d'autres exemples un peu plus tard, mais là, j'ai donné l'exemple de la COVID, mais c'est la même chose dans toutes les maladies. Puis tout à l'heure, si c'est possible, je donnerai un exemple d'une étude qui a été faite au Canada, où est-ce qu'ils ont utilisé le Fini Test canadien, qui, à mon avis, n'est pas un excellent test, mais malgré tout, ils ont fait des choses très intéressantes dont je parlerai tout à l'heure. Je laisse Robin compléter sur les articles, peut-être.
Oh, les articles, effectivement, j'ai parlé du site internet tout à l'heure de Cardiotest. On peut s'inscrire, du coup, en attendant pour faire patienter les personnes qui ont envie de tester Cardiotest. J'ai demandé à Daniel de prendre les 8 articles les plus intéressants, qui me semblaient le plus intéressants, et de les résumer, les faire en français, du coup, parce qu'on sait que des fois en anglais, ça peut être un petit peu une barrière de lire des articles complets. Et donc, Daniel a traduit et résumé 8 articles, 4 sur les coûts liés à la fin, sur les mets, les coûts de santé. Et 4 sur vraiment la santé. Donc c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une des plus gros articles qui existent aujourd'hui qui sont publiés sur la capacité cardio-respiratoire et qui sont vraiment bluffants à chaque fois. Je les relis, je suis toujours aussi impressionné de voir ce qui a pu être fait sur le sujet.
Ok.
Juste pour en donner, oui. Ah.
Non, allez-y. D'accord, le décalage.
Il y a toujours le petit décalage. Juste pour en résumer 2 ou 3, par exemple, il y a l'article, moi je considère qu'il est de base, c'est sur une méta-analyse, c'est-à-dire plusieurs analyses qui ont été mises ensemble, c'est Codeman, sur des études américaines, européennes, etc., et même asiatiques, et ils ont, je ne sais plus, c'était plus de 100 000 sujets au total, et ils ont regardé quel est le meilleur marqueur des maladies ou de la non-maladie. Et ils ont examiné la pression artérielle, ils ont examiné le taux de cholestérol, ils ont examiné le taux de triglycérides, le tour de taille, etc., 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 les trucs classiques qu'on utilise. Je pense aussi à la glycémie au repos, qui est un indicateur du diabète de type 2. Ils ont examiné exactement, dans chacune des études, ils avaient examiné la capacité cardio-respiratoire en mètres. Ils utilisent toujours le terme mètres dans cet article-là. Et on s'est aperçu que le meilleur indice est de loin, parce que c'est un indice combiné. C'est la capacité cardio-respiratoire en mètres. Ou en millilitres, ce sera la même chose, hein, parce que c'est juste un équivalent. Et de très loin.
C'est juste une transition, mais une reformulation, disons. Là. Plutôt, c'est le même principe, au final.
C'est deux unités de mesure, mais où est-ce que c'est 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo égale à 1 mètre. C'est tout. Mm-hmm. C'est la même chose. Hein. Et dans cette étude-là, entre autres, on déterminait que cette méta-analyse très importante, c'est que 1 mètre de plus, c'était de mémoire 13% de moins de mortalité, c'est énorme, et 15% de moins de maladies cardiovasculaires et coronariennes.
OK.
C'est 1 mètre.
OK, et donc 15% de moins de comorbidité, disons, cardio-respiratoire, mais est-ce que c'est le même, est-ce que le pourcentage est équivalent, mettons, pour les maladies métaboliques? Ou c'est simplement cardio-respiratoire?
Non, mais là, je parlais de... Ça dépend de qu'est-ce que tu entends dans métabolique. Dans le métabolique, souvent, on met tout ce qui est AVC, on met aussi maladie cardiaque puis diabète de type 2.
Okay.
C'est aussi les maladies cardio-respiratoires et coronariennes, dans ce cas-ci. Mais il y a une autre étude, je vais parler de l'étude canadienne. L'étude qui est sortie en 2023. Donc, le premier principal auteur, je ne suis pas sûr qu'il est au Québec, mais c'est Chaput. Et eux, ils ont examiné de mémoire 9000 Canadiens en faisant faire le PhysiTest canadien. Okay? Et c'est un des articles qui est résumé. Et ils ont séparé la population en trois. Les en forme, plus haut, les moins en forme et ceux qui sont dans le milieu. Okay? Puis ils ont regardé quelle était l'incidence. Le premier truc, c'était quelle était l'incidence de la maladie pour différentes maladies chez les... Puis là, c'est seulement le tiers, c'est pas le premier pourcent versus le dernier pourcent, hein. C'est tiers à peu près, là. Et dans tous les cas, il y avait beaucoup plus d'incidence de maladies pour toutes les maladies que je définirais tout à l'heure, pour toutes les maladies, pour les gens qui ont moins de mètres, parce qu'ils sont encore déterminés sans mètres, et versus ceux qui ont le plus de mètres. Et seulement séparés en trois, là. Et c'était toujours 1,5, 1,7 fois plus de maladies pour la population la moins en forme. Et c'était, il y avait le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les cancers, etc. Et où est-ce qu'il y avait le plus de différence entre les deux? C'était un facteur de 3, c'était Alzheimer.
OK.
Donc, dans tous les cas, ceux qui sont dans le tiers le moins en forme, qui ont le moins de mètres, ont toujours plus de maladies que le tiers le plus en forme. Puis si on avait comparé les premiers 10% au dernier 10%, ça aurait été beaucoup plus que ça. Moi, j'ai été étonné, c'était Alzheimer, où est-ce qu'on voyait le plus de différence? Très étonné.
OK, quand même. Oui, quand même.
Mais il y a des études, une étude québécoise qui était faite, canadienne, qui était faite en collaboration avec l'Institut de cardiologie, qui démontre qu'effectivement, une des choses qui a le plus d'effet pour la maladie d'Alzheimer, c'est un entraînement combiné cognitif et physique.
D'accord. Puis quand on parle d'entraînement cognitif, c'est principalement au niveau des réflexes, au niveau d'autres... cognitif, mémoire, puis...
Je pense que c'est relié à ça, mais moi, je n'avais pas vu le protocole exact en ce qui concerne l'aspect cognitif. Mais en ce qui concerne l'aspect physique, et ça a été fait en collaboration avec l'Institut de cardiologie de Montréal, et le chercheur, c'est Louis Berrère, qui est un Français, je pense, qui est établi au Québec. Il y en a qui sait le contraire. Et puis l'entraînement, c'était pas juste faire de l'activité physique. Il insistait sur le fait que c'était de l'entraînement fractionné, intense, relié à la capacité de chacun des sujets.
OK. Puis on va revenir sur le cardio test, justement. Donc, l'idée avec toutes ces informations-là, c'est surtout de créer un outil permettant, en fait, d'évaluer les MES puis les capacités cardio-respiratoires pour les personnes, quand même pour un grand nombre de personnes. Si... En fait, qu'est-ce que ça comporte comme outil, mis à part le step pour ce qui est de l'équipement? Donc là, je sais qu'il y a un questionnaire pré-test qui est prévu. Il y a un équipement aussi en fonction du test. Donc là, je sais que présentement, votre test est surtout fait sur tablette ou sur appareil mobile. Comment fonctionne cet équipement-là, c'est pour vraiment évaluer la personne? Est-ce que...
Je vais lire concrètement comment ça se passe et puis Daniel y complétera si tu as besoin de plus de précision sur comment ça se passe. Du coup, les étapes, tu les as bien dites. Ce dont on a besoin, c'est de savoir où est-ce qu'elle en est la personne avant de commencer le test. Parce que si on prend les extrêmes, c'est que si on fait faire un test, je sais pas, un test navette, une test navette, si une personne elle est vraiment très déconditionnée, le premier palier, elle ne pourra même pas le faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est de savoir déjà où est-ce qu'elle en est, et on le fait avec un questionnaire. Ce questionnaire, il comporte à peu près 8 questions, et il s'appuie sur le questionnaire de Huet, dont Daniel a parlé tout à l'heure, et il permet d'estimer une première fois le niveau de capacité cardio-respiratoire. Et par rapport à ça, du coup, on va pouvoir, à la suite de ce questionnaire, recommander la hauteur idéale du step pour s'évaluer. C'est un petit peu comme on pourrait recommander le palier idéal pour démarrer le test navette. Si tu es très en forme, tu peux commencer plus tard. Si tu n'es pas en forme, il faut que tu commences bien avant, peut-être en marchant. C'est ça, en fait, la hauteur du step. C'est comme un palier qu'on démarrait plus tôt ou plus tard. Donc, on règle la hauteur du step. Et en fonction de la première estimation qui est faite avec le questionnaire, on va donner un premier palier avec une cadence à respecter, avec un métronome. Ça va falloir monter et descendre du step, classiquement. Hein. On monte un pied, on monte l'autre, puis on descend, etc. Comme une marche d'escalier, mais on monte, on descend, pendant 45 secondes. Et à la fin de ce premier palier, on va poser la question du ressenti d'effort à la personne qui effectue le test. Et en fonction de sa réponse au questionnaire, on va réadapter l'intensité du palier suivant. Et il va être de plus en plus difficile. Et en fonction du ressenti, comment ça évolue. En général, au bout de 4 à 5 paliers, le test se termine. Et en fonction du coup de la hauteur et la cadence à laquelle la personne est allée au dernier palier, plus le temps qu'elle a complété dans le dernier palier, plus son ressenti au dernier palier, et du coup, on peut calculer, on peut estimer, en tout cas, assez précisément, assez exact, la VO2 max de la personne, donc la capacité cardio-respiratoire. Voilà comment ça se passe concrètement pour l'utilisateur. Après, je ne sais pas si tu as d'autres questions sur, voilà, plus précises, mais.
Ben, j'en aurais deux, en fait. C'est au niveau du métronome. Ça, je pense que ça n'avait pas été mentionné aussi dans les étapes du cardio-test. Fait que la question étant, c'est quoi la vitesse du métronome et est-ce que la vitesse augmente à chaque palier
Ouais.
ou c'est la même?
En fait, le protocole, il est personne dépendant. En fait, il va dépendre vraiment de la personne et du questionnaire auquel elle a répondu. Donc, si toi, tu as une estimation, je sais pas, à 18 mètres, tu vas commencer peut-être avec un step à 35 cm de hauteur. Moi, si je suis évalué à 6 mètres, je vais commencer à 15 cm de hauteur. Mais en plus de ça, on va aussi faire varier la cadence pour que ça corresponde parfaitement à 50%, à ton effort qui représente 50%, à peu près un échauffement, pour que ça corresponde parfaitement à 50% de ta capacité cardio-respiratoire estimée. Donc effectivement, la cadence, elle va évoluer aussi. Donc la première chose, c'est que elle va être différente pour tout le monde au premier palier, et elle va effectivement évoluer au cours du test, justement pour que le test, il soit progressif et qu'il soit de plus en plus difficile. On ne fait pas varier la hauteur, mais on fait varier la cadence. Donc si tu commences par exemple à 80 mouvements par minute, tu montes et tu descends, le palier suivant, en fonction de ta réponse de difficulté, elle va augmenter de manière plus ou moins exponentielle. Donc peut-être que le palier suivant, pour toi, ce sera 120 mouvements par minute, puis le palier 3, 150, puis le dernier, 180 ou 200. Donc, en fonction de ces paramètres-là, en fonction de ton ressenti, en fonction de la hauteur, en fonction de tout ça, on est capable d'évaluer cette capacité cardio-respiratoire.
Puis l'autre question étant au niveau de l'arrêt du test, comme présentement, c'est surtout relié à l'effort qui devient beaucoup trop difficile pour la personne, puis elle peut s'arrêter à tout moment. Mais est-ce qu'en tant qu'évaluateur, les critères d'arrêt sont équivalents à peu près à ce qu'on fait au Québec? Je ne sais pas si Daniel ou Guy Robin, vous pouvez répondre. Quand je parle des arrêts du test, si la personne ressent, mettons, un ressentiment à la poitrine, on constate qu'il y a un risque pour sa santé, est-ce que c'est équivalent? Est-ce qu'il y a d'autres critères aussi qui sont en ligne de compte?
Les mêmes critères sont appliqués, mais en plus, ils sont appliqués directement à l'intérieur du test et des algorithmes. Si, par exemple, la personne est estimée à 4 mètres et moins, 4 mètres et moins, c'est un malade cardiaque, c'est un insuffisant rénal dialysé, c'est quelqu'un de peut-être beaucoup plus âgé, c'est quelqu'un qui va marcher, c'est pas quelqu'un que tu rencontres et qui va marcher à grandes enjambées. T'imagines 4 mètres, ça c'est le maximum. Donc, et la capacité maximale, on est capable de la tenir 3, 4, 5, 6 minutes maximum. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsque tu le vois marcher dans la rue, marchera au maximum à 2 km/h. Donc, ce type de personne-là, qui est estimé à 4 mètres, c'est moins. Dès que la personne, parce que les différentes réponses possibles, c'est très facile, facile, normal, difficile, très difficile. Bon, dès qu'elle répond moyen, on l'arrête.
OK.
La personne qui va être estimée entre 4 et 10 mètres, c'est-à-dire des personnes qui sont sédentaires, pas complètement malades, mais sédentaires et actives, ben, dès qu'elles vont répondre dit difficile, le test va s'arrêter.
OK.
OK. Et les personnes qui sont estimées à 10 mètres et plus, c'est-à-dire les actifs sportifs, dès que la personne répond très difficile, le test va s'arrêter. Donc déjà, il y a un contrôle qui est là, mais évidemment, la personne elle-même peut s'arrêter et le professionnel peut décider d'arrêter une personne selon les critères habituels.
OK. Quand même intéressant cette partie-là, que c'est quand même très adapté en fonction de la condition de la personne, ce qui n'est peut-être pas nécessairement fréquent dans la plupart des tests, surtout où j'évolue, là. On s'entend. Puis au niveau des résultats, c'est des informations seulement sont détaillées, critères de santé, limitations aussi. Est-ce que ces informations-là, la personne, est-ce qu'elle a directement aussi s'inscrit? Est-ce qu'il y a aussi un suivi qui est fait? Sûrement qu'il y a un suivi qui est fait aussi. Comment fonctionne le système au niveau peut-être du dossier du client?
Je vais laisser répondre Robin. Il y a des choses qui sont faites et qui existent. Il y a des choses qui sont à venir. Mais j'aimerais que Robin parle de bilan, OK, ouais. Qui parle effectivement de suivi et d'amélioration. Parce qu'on a déjà fait des systèmes, mais qui ne sont pas encore sous forme d'application, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, je parlerai juste après. Mais j'aimerais que Robin explique le système, parce que c'est beaucoup plus lui l'expert.
Donc, si tu veux repréciser ta question, je vais dire si je complète. Ta question, c'est de savoir comment est détaillé un peu le bilan, c'est ça? Et ensuite, savoir si une personne, un individu sans un professionnel peut accéder au test et avoir un bilan, c'est ça? Et la suite.
Exact.
Super précisé.
Exact. Comment fonctionne ou comment écrire le dossier du client au niveau de sa conception jusqu'au suivi, disons? Est-ce que c'est plus clair un petit peu pour toi?
Ouais. Aujourd'hui, c'est ça que c'est. Donc, t'as bien expliqué. C'est une application qui est pour le professionnel. Et donc, le dossier du patient, du client, il est créé tout simplement en renseignant son nom, son prénom, son âge, etc. Et puis derrière, une fois qu'on a complété tout le test, on va avoir une première fois un bilan qui va servir tout de suite en tant que professionnel pour le présenter à notre bénéficiaire, à notre usager qui est en face, que ce soit un client ou un sportif, pour lui expliquer effectivement tout ce qu'on vient de dire, hein, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il en est par rapport à son âge, à son sexe. On va mettre en tout cas pas mal de statistiques, ça c'est une des grandes forces de Daniel, c'est qu'il a la possibilité de transformer pas mal de choses qui sont intéressantes sur le point de vue du terrain et qui sont utiles. Donc ça c'est la première chose. Et derrière, le professionnel, lui, va avoir un espace directement en ligne, plus sur son ordinateur, où il va pouvoir retrouver de manière assez succincte pour l'instant les résultats de la personne qui vient d'évaluer, pour pouvoir le réévaluer plus tard et voir s'il y a des progrès. Donc voilà comment ça se passe concrètement. Et l'idée aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'aller étape par étape et de pas d'aller trop vite, parce que le domaine de l'activité physique pour entreprendre, c'est pas un domaine très très simple, parce qu'il faut, et c'est tant mieux quelque part, parce qu'il faut qu'il y ait des validations scientifiques.
Je sais pas si vous avez de l'activité, mais là,
des preuves scientifiques.
Vous entendez plus.
Nous, on t'entend bien.
Ah, ok. Bon, j'ai eu un petit problème de connexion, pardonnez-moi.
Du coup, je disais que c'est un domaine dans lequel il faut avoir des preuves scientifiques et ça prend du temps. À l'échelle d'une entreprise, on n'a pas toujours le temps de faire toutes ces étapes-là. Et là, on a décidé vraiment de prendre ce temps-là. Et donc, Daniel s'occupe de toute la validation scientifique de l'outil. Donc, la première chose, c'est de faire un outil de mesure. Mais derrière, Daniel a toutes ses années d'expertise dans l'évaluation, mais aussi la prescription d'intensité d'entraînement. L'idée d'évaluer, avec Daniel, on le porte tous les deux beaucoup là-dessus, c'est que c'est bien d'évaluer et d'être exact et le plus exact avec une mesure réelle, mais en fait, finalement, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir l'utiliser dans le terrain, le concret, de pouvoir améliorer. Évaluer pour évaluer, c'est pas forcément toujours pertinent. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir l'améliorer, et avec Daniel, on a vraiment tous les deux cette vision, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, de pouvoir améliorer. C'est de se dire, OK, moi, quand je fais de la prescription d'intensité, on va dire à haut niveau, j'ai des tests qui me permettent de le faire, en musculation, sur le plan aérobie, des pourcentages de VMA, etc. On a des choses, mais sur des gens qui sont déconditionnés, on n'a rien. Et donc l'idée derrière pour nous, c'est à terme de pouvoir proposer un outil aussi et des suivis pour les patients, et pouvoir leur proposer des programmes d'entraînement. Mais ça, ce sera vraiment dans un second temps, et on veut déjà bien s'assurer de la qualité de cardio-test et qu'ils répondent aux exigences de chaque professionnel sur le terrain.
Ok.
Mais pour compléter sur le sujet, malgré tout, même si ce n'est pas disponible sous forme d'application à court terme, il y a eu des essais, entre autres sur le STEP, qui ont été faits. Il y a eu deux autres études qui ont été réalisées. Il y a des articles scientifiques qui vont sortir en 2024. Mais entre autres, sur STEP, 150 patients, la moitié des patients avaient juste des conseils, type Kino Québec, c'est-à-dire manger, bouger correctement. Mmh. Et l'autre avait un entraînement sur STEP 3 fois par semaine, suivi par un enseignant d'activité physique adaptée, 2 fois à la maison et les autres fois au téléphone. Et l'amélioration était assez grande, d'un mètre en 3-4 semaines. On l'a fait aussi en centre de réadaptation cardiaque et les patients partent de plus bas. Donc, il y a eu une amélioration par rapport aux méthodes des enseignants, des kinésiologues français qu'ils avaient utilisées, 2,4 fois plus élevées. Et on l'a fait également dans un cadre scolaire avec le test navette. Et encore une fois, la même méthode d'entraînement qu'on appelle METSOP, monter les METS, l'amélioration était beaucoup plus grande que de suivre un cours d'éducation physique normale.
OK.
C'est ça. Ces articles-là ne sont pas parus, mais vont paraître courant 2024. 3 articles scientifiques sur le sujet.
OK. Puis, si on avait à conclure la discussion dans les premiers, éventuellement, la question que j'aimerais poser, c'est là, je sais qu'il y a une validation qui est en train de se faire au niveau du en 2024, je crois que c'était mentionné dans une des. Par rapport à votre site Internet, justement. Puis ça, si quand ça va être approuvé, après ça, ça va être quoi la prochaine étape pour vous, pour le CasoTest?
Robin?
La prochaine étape pour le cardio-test, ça va être de le faire utiliser à un maximum de personnes, tout simplement. Et de savoir et de montrer qu'il y a vraiment de l'intérêt.
Okay.
Moi, c'est l'objectif principal qu'on a tous les deux, c'est de le rendre accessible au plus de monde possible et que ce soit utile sur le terrain.
OK. Parfait. Parce que pour vrai, de ce que j'entends, de ce que j'ai vu aussi, je trouve que c'est un outil qui est super, qui a l'air quand même relativement simple, qui a l'air quand même relativement efficace. Puis j'espère quand même qu'il y ait son succès parce que c'est le fun d'avoir des tests quand même qui sont beaucoup plus informatisé, beaucoup plus concret. Tu sais, je donne l'exemple justement pour les forces armées canadiennes où ce qu'on a un test qui est informatisé et que ça fait vraiment toute la différence pour les professionnels. Puis j'espère que cet outil-là, dans l'avenir, va avoir le même effet aussi pour une population beaucoup plus grandie, pour beaucoup plus générale aussi. Puis qu'on aille beaucoup plus loin que simplement, mettons, pas l'Amérique du Nord, mais tu sais, le Canada-Québec et la France, qu'on aille beaucoup plus loin encore à ce niveau-là. Fait que ça, ce serait. Moi, ce que je vois comme vision, je trouverais ça intéressant pour ça. Puis avant de terminer, si vous avez de quoi à conclure ou à ajouter pour terminer ça en beauté, est-ce que je vous laisse la parole?
Peut-être, je pensais que Robin allait le dire, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que la version, si tu fais un nombre d'évaluations, on n'a pas encore décidé le nombre, mais quand le cardio-test sera prêt, il sera gratuit dans sa première utilisation. Donc, si tu fais,
okay.
On avait pensé, ça va peut-être changer un peu, mais si tu fais jusqu'à 3 évaluations par jour, ce sera gratuit. Par contre, éventuellement, si tu veux en faire beaucoup plus que ça, si tu veux avoir des analyses précises, ou éventuellement, nous, on va avoir des versions qui vont se faire sur tapis roulant, vélo, rameur, ben, ça aussi, c'est normal, il va y avoir du freemium. Et par la suite, et nous, notre objectif, c'est d'avoir une grande base, et que ce soit gratuit, puis sur cette base-là, certains, 10-20 % des professionnels voudront utiliser une version qui est plus intéressante, et plus intéressante, qui fait un peu plus. Mais déjà, la première version sera très intéressante à notre avis.
OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres façons de peut-être vous rejoindre pour toute autre question? Est-ce que le site Internet, je crois, il est disponible sur le LinkedIn, sur un lien? Pour
oui.
Robin, est-ce qu'il y a une autre manière sur Google ou sur d'autres plateformes de recherche?
Non, aujourd'hui, c'est un projet qu'au tout début. Donc, pour l'instant, pour nous joindre, le plus simple, c'est LinkedIn. Moi, je suis très actif quotidiennement. Daniel, il est aussi de manière moins active. En tout cas, il peut recevoir les questions, s'il y a des questions. Et puis, ouais, pour découvrir le site, il faut aller sur mon profil LinkedIn ou celui de Daniel et cliquer sur le lien. Pour l'instant, on n'a pas mis en place de marketing particulièrement. On attend vraiment de l'utiliser, d'avoir des utilisateurs pour être confiant sur ce qu'on propose avant de le lancer à plus grand effet.
Parfait. Et je vous remercie beaucoup, messieurs, de vous avoir pris le temps de discuter du projet. Je trouve que c'est vraiment un beau projet. Puis il était très bien expliqué. Je le trouvais très intéressant. Je vous remercie beaucoup.
Merci, Michael.
Merci.